L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.
Et voilà-tu pas que les Maronites quittaient le nord de la Syrie pour aller dans les plaines du Liban la semaine dernière, Bernard
Vacheron ?
Tout à fait.
Et j'ai expliqué justement qu'ils étaient dans la vallée de la Kadishat, vallée que je connais fort bien, puisque durant tout mon temps, les 14 ans de Liban, je suis allé souvent en sport de montagne dans la vallée de la Kadishat, hein. Et j'ai aussi concélébré des messes maronites, quoique je sois, moi, de rite grec catholique. Hein. Mais bon, eh bien, le mot de Kadesh, hein, c'est un mot sémite, c'est-à-dire ça vient de l'hébreu et du vieil arabe, et voire du vieux syriaque. Hein. Eh bien, Kadesh veut dire saint. Et ça a donné, d'ailleurs, en arabe, le mot de Kuddus. Eh oui, Kuddus, qui veut dire le saint. Par exemple, dans les liturgies maronites, là je fais une petite parenthèse, hein, on dit Kadishat Aloho, Kadishat Ayoto, Kadishat Lomoyoto. Hein. Ce sont les trois fois saint qu'on utilise dans la liturgie latine. Eh bien, dans la liturgie grecque melkite catholique, où on parle aussi bien, comme pour les orthodoxes d'ailleurs, aussi bien le grec que l'arabe, puisqu'il n'y a pas de problème de langue traditionnelle ou vernaculaire dans les églises d'Orient. Dans l'église grecque catholique, par exemple, ou chez les orthodoxes, on dit aussi « Kudus anillah, kudus anilrawir, kudus anilladil ayamut alhamna » trois fois saint. Hein. Donc vous voyez, voilà, hein, c'est une reprise. Alors donc, là, se sont créés, dans la vallée de la Kadishat, des communautés chrétiennes qui ont été byzantines, syriaques et maronites. Alors ça, c'est un point qui est très intéressant. Il y a des ouvrages, d'ailleurs, qui sont passionnants sur ces églises-là. Les églises communautés et les églises bâtiments, les deux, au point de vue témoignage archéologique. Je crois que le meilleur témoignage de la présence de chrétiens grecs melkites, alors byzantins, dans la zone de la Kadishat, et celui de la grotte du Hasi Aouka, qui a été explorée et étudiée par Fadi Baroudi, Paul Rawaja et Alain Maroun, qui ont publié leurs études dans le bulletin du GERSL, c'est-à-dire Groupe d'études et recherches souterraines du Liban, numéro 1 du 1er juin 1988. Et ils ont publié là des études très intéressantes sur des peintures de grottes du Hasi Aouka, où on voit des prières de la liturgie byzantine. D'autres sites archéologiques témoignent de la même présence, par exemple à Smarenjbeil ou à l'église dédiée de Mar Nora, nom qui en syriaque signifie lumière, Nour, saint qui fut martyrisé au IIe siècle à Batroun, sur le littoral de la Méditerranée, et surtout à Riné, près de Razir et Harissa, où subsistent des mosaïques byzantines de la fin du 5e siècle, et en beaucoup d'autres lieux qu'il est inutile de énumérer ici. Plus tard, alors beaucoup plus tard, vers 685, Saint Jean Maron, qui est à ne pas confondre avec Saint Maron, fonda l'église maronite, dont il fut le premier patriarche. Dès ses débuts, l'église maronite fut rattachée à la papauté romaine et y resta fidèle tout au long de son histoire. Quant aux Grecs melkites, orthodoxes ou catholiques, dont les origines remontent aux missions de Saint Paul en Grèce entre 50 et 52, et aux communautés hellénisantes, voire totalement grecques, se trouvant déjà dans les pays du Proche-Orient méditerranéen, ils comptèrent de grands personnages, comme Saint Jean Chrysostome, vers 350 à 407, Saint Basile de Césarée, vers 330 à 379, et uni à Rome, quand, jusqu'en 1054, quand le patriarche Michel Cérulaire sépara l'église byzantine grecque de l'église romaine par le fameux schisme, alors je mets des guillemets parce que, hein, schisme, on l'est tous, hein. Si, au début, l'ensemble des Grecs melkites fut en accord avec Michel Cérulaire, il apparut qu'assez vite, certains membres de l'église grecque melkite contestèrent son autorité et tentèrent un retour vers Rome tout en gardant leurs rites et traditions ecclésiales et théologiques. Leur tentative échoua. Ils la renouvelèrent au cours des 13 et 14e, en inspirant plus ou moins indirectement l'empereur de Byzance durant le pontificat du pape d'Avignon, Clément VI, entre 1342 et 1352, pour fusionner les églises byzantines et latines, chacune gardant leur propre tradition. Clément VI accepta, alors je rappelle que Clément VI était pape d'Avignon, n'est-ce pas, et œuvra en ce sens auprès des rois et empereurs occidentaux qui refusèrent. Et oui, ce sont les rois qui ont empêché cette fusion. En particulier, le roi Charles V, dit le Sage, qui régna de 1364 à 1380. Il y eut d'autres tentatives par la suite, mais elles échouèrent. Il fallut attendre le XVIIIe siècle pour les voir aboutir harmonieusement, chacun conservant ses propres traditions et façons de vivre l'Église. On ne peut pas dire que le schisme de 1054, opéré par Michel Cérulaire, fit toujours l'unanimité au sein même de l'Église byzantine. Le problème s'accentua sous les pressions de l'islam, qui apparut avec le prophète Muhammad, Mahomet, à partir de son séjour à Médine, ville actuelle d'Hedjaz, en Arabie Saoudite, et à partir de 622, année d'où part l'Égypte, qui est le début de l'ère musulmane, jusqu'en 632. Les tensions entre islam et église chrétienne furent nombreuses, tant au plan religieux que politique. Les empereurs byzantins luttèrent contre les invasions musulmanes et les musulmans contre les byzantins et contre les royaumes et empereurs occidentaux, tant sur mer que sur terre. En 714, les Berbères, dirigés par Tariq et Musa, attaquèrent l'Espagne, puis la France, où ils furent, je le rappelle, vaincus par Charles Martel en Poitou en 732. Mais ils laissèrent des traces souvent importantes en art, en architecture, le style mozarabe, par exemple les églises des Arcs dans le Lot et le portail de la magnifique église fortifiée de Taillac, sur la commune des Aizis de Taillac en Dordogne. Ainsi qu'en musique et en chant religieux, jusqu'à la fin de l'époque médiévale. En Espagne, le rite mozarabe et l'architecture dite mauresque, en particulier à Séville et Cordoba, voire la cathédrale mosquée, l'histoire de ces tensions est en dents de scie, avec des hauts et des bas, et des méandres, au contour sur un très long parcours.
Je suis de Bassora, aux portes du désert, mais je ne m'arrête pas au poste des frontières. Nomade pour toujours, depuis Sherazade, quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Je suis du pays Cam, la tête dans le ciel, les montagnes ont une âme sous les neiges éternelles. Sherpa depuis toujours, des sommets, des façades, quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. T'attends quoi? Que la terre nous ronde, que le soleil nous fonde, et qu'on enfuisse le monde. Dis-moi, dis-moi, on attend quoi? Que la terre nous ronde, que le soleil nous fonde, et qu'on enfuisse le monde. Dis-moi, dis-moi, ils attendent quoi? Je connais les secrets des plantes et de la faune, vivant depuis toujours, j'écoute les cascades, quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Je suis à la dérive, un bateau sans le vent, priant pour que j'arrive où personne ne m'attend, perdu depuis toujours, d'Odyssée en l'Iliade, quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Quand arrivera ce jour, on se sauvera de la noyade. Et t'attends quoi?
Narbonne, qui fut musulmane, ou du moins sous domination musulmane, fut reprise par les troupes de Childebrand, frère de Charles Martel, vers 751, laquelle avait été déjà prise entre 737 et 739. La communauté juive fut elle aussi présente dans la Narbonnaise durant cette période, et chrétiens et juifs purent exercer leur culte librement tout en étant dhimmis sous domination musulmane. En l'an 800, Charlemagne devint empereur des Francs et fut couronné par le pape Léon III. Lors de ce couronnement, Charlemagne reçut de nombreux présents offerts par les chefs arabes, dont un éléphant et un organum. Qu'est-ce que c'est que l'organum ? C'est un orgue portatif, peut-être hydraulique, ou déjà à vent, actionné à l'arrière par un petit soufflet, comme il en existait déjà sous les empereurs romains, pour animer les fêtes et les jeux dans les théâtres et arènes ou colisées. L'usage de ces organums et des cloches, tintinabula, pour l'ouverture des jeux, ayant laissé un trop mauvais souvenir aux chrétiens, du fait que nombre d'entre eux mouraient lors de ces jeux, fit que tintinabula, les cloches, et organum, orgue portatif, furent longtemps exclus du rite chrétien. Recevoir un organum de la part des chefs musulmans en l'an 800 montre donc un changement des mentalités chez les chrétiens et chez les musulmans, une évolution culturelle du fait que pour eux, l'instrument de musique, surtout de ce genre, furent tolérés et souvent interdits. Plus tardivement, en 902, les Arabes prirent la Sicile et en 904, Thessalonique en Grèce ou Macédoine. Dès 907, ils attaquent Byzance. Désormais, commencent les grandes guerres entre les Byzantins et les Arabes. En effet, de 1025 à 1204, se situe la période du déclin de l'Empire byzantin, comprenant le règne de la dynastie des Doukas, qui, de 1059 à 1078, luttèrent contre les musulmans turcs seldjoukides, puis, de 1081 à 1185, ce fut la dynastie des Comnènes, dont le premier, Alexis Ier, qui combattit lui aussi les Seldjoukides. En 1096, débuta la première des 8 croisades où les chrétiens occidentaux affrontèrent aussi bien les chrétiens byzantins que les musulmans en une guerre tripartite opposant chrétiens latins, chrétiens byzantins et les musulmans. Opposition qui fut marquée en 1203 et 1204 par la prise de Constantinople et son pillage, il faut le dire, son pillage, eh oui, par les croisés qui y commirent aussi des massacres. Pourtant, les Byzantins repoussèrent les attaques des Perses. Arabes et Turcs, ce qui aida non seulement les rois et empereurs occidentaux, mais aussi la papauté romaine, avec laquelle ils entretinrent d'ailleurs des contacts occasionnels et plus ou moins secrets par le moyen des ambassadeurs de l'un et de l'autre, souvent indépendamment des empereurs et des rois occidentaux. Mais oui, l'islamisation envahissante de l'Orient et de l'Afrique, menaçant l'Occident chrétien, le pape Pascal II, pape de 1099 à 1118, créa en 1113 l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. En 1118 ou 1119, il y a des hésitations historiques, le pape Gélase II, pape de 1118 à 1119, créa l'ordre des Templiers. Et en 1128 et 1130, sous le pape Honorius II, pape de 1124 à 1130, fut créé l'ordre des Chevaliers Teutoniques. Dans son ensemble, la chevalerie fut conçu au cours du Xe siècle pour le service de la protection des plus faibles, en particulier des pauvres et des orphelins, désormais, les chevaliers entreront aussi au service des croisades après avoir reçu une formation militaire et religieuse, les menant au bout de leur formation à un adoublement consistant en un rite initiatique, disons-le, chrétien, au cours duquel ils furent adoublés chevaliers devant leur aumônier et devant leur seigneur et par eux. Il fallut en effet créer des ordres militaires pour compléter les armées très désordonnées des rois et empereurs, armées trop parcellaires, sans coordination entre elles, n'obéissant qu'à leur seul maître, souvent en désaccord au cœur même d'une même bataille, d'où des désordres dommageables, contrecarrant une éventuelle victoire. D'où la papauté tira les conclusions stratégiques logiques qui lui inspirèrent l'idée de créer des ordres chevaleresques durant la première moitié du XIIe siècle afin de contribuer à la lutte contre la menace et de la montée islamique en Orient et sur la chrétienté occidentale.
On va arrêter l'émission ici, on va attaquer un nouveau chapitre dès la semaine prochaine.
Voilà.
Et puis on s'avance tout doucement vers les fêtes de Noël.
Tout à fait.
Merci Bernard Vacherot, à la semaine prochaine.
Avec plaisir mes amis.
L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.